Bonsoir. Débat autour des troupes rwandaises retirées des Rutshuru à la République démocratique du Congo depuis le 31 août dernier. La rentrée scolaire est intervenue lundi 3 septembre en République démocratique du Congo. Quels sont les thèmes que vous propose Céline Lartes de ce soir? Soit qu'on soit journaliste qui participe à ce débat, il s'agit de Marcel Ngoï, il est éditeur du journal Prospérité. C'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Marcel Ngoï.
Bonsoir Guy Mathieu.
Albert Omba, il est journaliste à la radio Tropicana FM, en étant de Kinshasa. Bonsoir Albert Omba.
Bonsoir.
Et Alain Kouma, il est rédacteur en chef de la radio Kivu 1, en étant depuis Goma, au nord Kivu. Bonsoir Alain Kouma.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous nos auditeurs.
Le Rwanda retire ses 300 éléments de Rutshuru. Les élèves ont repris les semaines de l'école. On écoute cet avis de presse que nous propose Alain Hirung pour savoir comment la presse a traité ces différents événements.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par l'affaire du retrait de 350 soldats rwandais. Messieurs, dites-nous la vérité, ainsi titre le phare. L'état-major de l'armée rwandaise a annoncé le week-end dernier le retrait de 350 soldats de Rutshuru dans l'est de la RDC. Selon les officiels congolais, poursuit le journal, ces soldats y étaient déployés depuis janvier 2009 dans le cadre des opérations conjointes. Selon Lambert Mende, cette annonce est un mensonge car l'opération Umoja Wetu avait pris fin le 25 février 2009. D'où ce qui s'est passé vendredi à Rutshuru est une exfiltration des soldats rwandais. Alors de quel côté se trouve la vérité, s'interroge le phare. De son côté, le potentiel exige de déclassifier les accords secrets. D'après le confrère, Kigali pousse Kinshasa à la faute pour, sans doute, se disculper devant la communauté internationale. Pour le potentiel, l'heure de vérité a sonné. Les accords secrets entre Kinshasa et Kigali doivent être dévoilés, discutés, triturés, retournés dans tous les sens pour être enfin déclassifiés. Un débat public s'impose et tout mutisme est préoccupant, conclut le quotidien. Pour sa part, l'observateur trouve plutôt que coincé de tous côtés et par tous, Kigali décide de retirer environ 280 soldats. Le sommet de Kampala mal parti informe le phare parlant d'un dialogue de sourds entre Congolais et Rwandais. Le journal rapporte que les experts militaires de la RDC et du Rwanda n'ont pu s'accorder hier à Kampala sur la configuration de la force internationale neutre, une force qui doit être déployée à la frontière congolo-rwandaise. Ce qui amène la Prospérité à affirmer à la une ce matin qu'il y a à Kampala 2 un couac entre Congolais et Rwandais au sujet de la dite force internationale. Dans un tout autre chapitre, le potentiel précise que la rentrée scolaire 2012-2013 a eu lieu lundi dernier en RDC. Tout est fin prêt à assurer le ministre de l'EPSP. Contrairement à un passé récent, les menaces de boycott n'ont pas été observées la veille de cette rentrée scolaire, car selon le quotidien, la paix des enseignants devenue régulière depuis quelque temps, le dialogue établi, etc. Par ailleurs, la Prospérité signe tous les enfants à l'école. Maker Mwangu met en garde les chefs d'établissement, allusion faite notamment à la compte.
Merci Alain Hirung. Marcel Ngoï, un petit commentaire par rapport à cette revue de presse que nous venons d'écouter. Je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Prospérité, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. L'actualité est aussi dominée par l'affaire Roger Lumbala, qui se réfugie actuellement dans l'ambassade de l'Afrique du Sud au Burundi.
Oui, cette actualité aurait dû également être complète si on abordait un peu ce qu'on appelle les journées parlementaires qui se tiennent au MLC. Si on prenait en compte ce qui se passe au niveau de l'UDPS, l'un des principaux partis de l'opposition qui vise un peu plus de lumière sur ce dossier et qui a tenu une première presse, et il y a effectivement ce qui se passe à Kampala. Donc la revue de presse qui est présentée est bonne, mais il faut ajouter d'autres aspects, comme je viens de le dire tout à l'heure.
Albert Omba, journaliste à la radio Tropicana FM en étant depuis Kinshasa. L'autre actualité, c'est la CPI qui a une fois de plus demandé à Kinshasa d'arrêter Bosco Ntaganda.
Bon, la CPI demande d'arrêter, mais qui va l'arrêter, c'est ça le problème. Parce que Kinshasa dira toujours, quand il était entre semaines, il disait toujours, c'est pour des raisons de sécurité, pour des raisons de paix. Maintenant, il dira qu'il n'est pas entre ses mains, il est de l'autre côté. C'est ça le problème.
Alain Souma, rédacteur en chef de la radio qui vous en état depuis Goma au nord de vous. Qu'est-ce qui domine l'actualité dans cette ville de Goma?
En fait, l'actualité qui domine la ville de Goma aujourd'hui, il faut dire, c'est en termes peut-être aussi de cette cohabitation pacifique voulue par toutes les communautés du Nord Kivu, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que le gouverneur mette en fait leur tête sur qui rendit un massif centre pour être avec toutes les communautés et toutes les représentations pour essayer de parler. Vous savez, les problèmes des guerres que nous subissons plutôt ici au Nord Kivu est beaucoup plus lié aussi à ces tendances des non-attentes tribales ici à l'est du pays et ici particulièrement au nord de Kivu. Voilà pourquoi les communautés se disent être aussi engagées pour mettre un peu fin à ces problèmes de randophonie, à ces problèmes de tribalisme, surtout avec les différentes agitations qui viennent de partout, que ce soit au niveau des autorités internationales et nationales. Et je crois que c'est ce qui est un peu plus important aujourd'hui, c'est pour parler de ces problèmes, parce que Rutshuru, Masisi connaissent actuellement un problème aussi de sécurité, un problème de guerre, parce qu'au moins à chaque tribu, il y a toujours tendance à se tirer la couverture de son côté, mais aussi les problèmes liés aussi aux différentes universités de la place, celles qui l'Unigom, parce qu'aujourd'hui il y a eu un peu plus de cacophonie au sein des universités, surtout à l'Unigom, où les étudiants ont pu revendiquer encore une fois de plus certaines irrégularités dues au Fatmekoum.
Merci. Notre premier thème de ce soir, débat autour des troupes rwandaises retirées de retour en République démocratique du Congo. Depuis le 31 août dernier, les forces spéciales rwandaises et congolaises ont quitté officiellement vendredi dernier les localités de Kitegourou, Kapigourou et Kaunga, c'est dans les groupements de Binza, territoire de retour. Elles y étaient déployées depuis février 2011. Selon Kigali, ces militaires étaient plus de 300 et avaient pour mission de traquer ensemble avec le FRDC les combattants Hutu FLR. Maintenant, la RDC parle des mensonges. Le porte-parole du gouvernement explique que ses militaires ne peuvent pas dépasser 50. Il s'agit, selon Lambert Mende, des officiers rwandais qui participaient il y a peu avec leurs homologues congolais du même nombre à la surveillance conjointe des frontières communes entre les deux pays. Il ne s'agit donc pas de plus de 300 militaires que le Rwanda décrit comme ayant participé à la traque des FLR. Le porte-parole du gouvernement Lambert Mende est joint par Donna Madimba.
Une fois de plus, par le mensonge et la dissimulation, nos amis rwandais essayent de distraire l'opinion, d'opposer la République démocratique du Congo à son propre peuple pour faire oublier le crime grave qu'ils sont en train de commettre au Kivu.
Les populations aussi témoignent avoir vu des militaires reconnus comme étant rwandais et quitter des positions pour aller vers d'autres positions depuis jeudi dernier. Est-ce que ces faits sont vrais ou pas?
Bien sûr qu'il y a eu des contingents d'officiers de renseignement, et c'est la République démocratique du Congo, je vous le rappelle, contrairement à ce que le Rwanda a débité comme mensonge, qui a demandé le démantèlement de ce mécanisme de surveillance depuis que les preuves se sont accumulées que le Rwanda agressait la République démocratique du Congo.
Et qu'est-ce qui a empêché l'armée congolaise d'encadrer cette sortie?
Mais parce que le Rwanda a refusé que cette sortie soit encadrée par l'armée congolaise.
Marcel Moïse, je rappelle que vous êtes éditeur du quotidien La Prospérité, c'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Et comment vous analysez ce qu'on peut qualifier des polémiques entre les deux pays?
Bon, je considère que c'est un vrai faux débat. Vrai faux débat parce que le Rwanda se place aujourd'hui dans une position qui permet toujours de jeter de l'huile au feu. Et imaginez que depuis que ces militaires, entre guillemets, se sont retirés, c'est aujourd'hui le tour pour les Congolais de s'en retirer. Donc, le débat aujourd'hui, ça devient une affaire, qu'on nous dise la vérité, qui a fait quoi, qui a fait ceci. Désormais, on a oublié l'essentiel aujourd'hui, c'est de rechercher la paix. L'essentiel aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure mettre fin à toutes ces bandes armées. Donc, la classe politique congolaise a récupéré le débat. C'est ça le drame, c'est que le Rwanda fait une situation, une diversion qui permet au plan interne de donner de la matière aux politiciens, au plan externe de donner de la matière à la communauté internationale, comme pour justifier sa présence au Congo. Je considère pour ma part que Kinshasa est victime de sa, je ne peux pas appeler ça naïveté, je dis tout simplement de sa, du manque de précaution qu'il faut prendre face à un ennemi
victime de sa bonne foi.
De sa bonne foi, parce que en fait, avec un ennemi, un voisin rusé comme le Rwanda, qui est déterminé à vivre aux dépens des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, parce que c'est ça le sous-bassement réel de cette guerre. Tant que le Rwanda n'aura pas d'autres ressources importantes que celles qui ont été au Congo, ce sera toujours difficile que cette guerre se termine. Pour arriver à mettre fin, on peut aujourd'hui claironner, déployer la force internationale neutre, comme on veut, mais il ne sera pas facile de veiller jour et nuit pour que les gens ne passent pas là-bas si on n'obtient pas des garanties de part et d'autre.
Merci, Albert, on a raison à cette guerre de communauté. Et c'est vrai que tout de suite, après l'annonce du gouvernement rwandais faisant état du retrait de ses troupes, l'opinion congolaise était quelque peu surprise d'apprendre qu'il était son sol. Il y avait encore des éléments rwandais. La réaction du gouvernement congolais n'était pas consécutive aux effets que cette annonce aurait produit dans l'opinion congolaise.
Oui, je crois que ça. À l'occasion de cette annonce, l'effet que ça a produit sur l'opinion. Mais il faut voir, comme l'a dit Marcel, c'est le gouvernement congolais est victime de sa propre turpitude, parce qu'il lui a évité de prononcer le mot. Vous vous souviendrez qu'à l'époque, quand les troupes rwandaises ont quitté la RDC, on a dit qu'il y a des experts militaires rwandais qui restent à travailler avec les experts congolais, dans le cadre du renseignement. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? Le gouvernement, pendant qu'il y a eu une crise avec le Rwanda, devait récupérer ces gens et les faire sortir officiellement comme il l'a fait, devant la presse, qu'il est resté autant d'officiers, et maintenant qu'on a des problèmes, ils rentrent, nous les renvoyons chez eux. Qui a assisté au retrait de cette troupe rwandaise? Est-ce que le gouvernement congolais a su identifier tous ces éléments de l'armée rwandaise qui ont quitté le Congo?
Oui, bien non, ça a été fait par le gouvernement
du Rwanda. Ça, c'est une des choses. La seconde, c'est comment se fait-il que tous ces officiers de renseignement se sont retrouvés uniquement à Rutshuru, alors que les FDLR sont connus, très puissants à Masisi, à Walikale, dans les Calais, à Walungu, et comment on les a concentrés uniquement à Rutshuru. Et Rutshuru qui sera le théâtre du M23. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand vous faites des analyses sur toutes les activités de l'Est à travers la République, vous verrez que pendant cette période, c'est Rutshuru qui était l'épicentre de toutes les meilleures activités de l'Est de l'air. Ce qui fait dire que ces officiers de renseignement rwandais qui sont venus ici, qui sont rentrés, étaient venus fabriquer. Comme l'opinion vous dira, l'Est, tout le monde vous dit que maintenant, c'est les Rwandais qui fabriquent l'Est de l'air. On vient les injecter ici. Vous verrez encore, quand on a retourné, il y a 58 éléments de M23 qui sont des sources rwandaises, qui doivent rentrer au Rwanda. Le Rwanda a nié leur existence. Mais dernièrement, le ministre rwandais, quoi, de la Défense, qui a reconnu le premier groupe. Il dit que les 11 qui ont été rapatriés l'autre fois étaient des ex-FDLR qui étaient cadernés dans un cas au Rwanda. C'est une source que le gouvernement congolais devait exploiter, mais je n'ai entendu personne exploiter cette histoire. Or, dans le temps, le gouvernement rwandais a refusé ces gens-là. Il a dit qu'il ne les connaissait pas. Mais il reconnaît que ce sont des ex-FDLR qu'on a rapatriés au Rwanda, qui étaient dans un camp, mais comment ils se sont retrouvés encore à RDC sous la bannière du M23. Donc, il faut que le gouvernement s'active pour être un peu plus présent et savoir réellement ce qui se passe.
Alain Touma, vous êtes au nord de vous, cette guerre de communiqués entre les gouvernements, entre Kigali et Kinshasa, comment elle est vécue à Goma?
Je crois bien que le problème des déclarations des pays comme la RDC, le Rwanda, il fallait peut-être aussi se poser plusieurs questions. Pourquoi ces déclarations surviennent au moment où les faits sont déjà sur table? La question aussi de savoir pourquoi les dire seulement aujourd'hui? Parce que c'est une question aussi importante. Est-ce que c'est parce que c'est aujourd'hui qu'on a compris que ces éléments sont en République démocratique du Congo et principalement dans la partie de la région de Rutshuru? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment des services de renseignement dans ces cadres pour donner aussi des précisions en rapport avec ces éléments? Et pourtant, nous en avons à Gogo, ici à Goma. Ils sont presque aussi, même dans des bus, pourquoi en avoir aussi pas dans la partie de Rutshuru? Et si on parle aussi de 50 officiers qui sont venus pour faire face aussi à combien aussi des FDLR, parce qu'il y a un grand nombre de forces démocratiques pour la libération du Rwanda, est-ce que 50 officiers peuvent faire face vraiment à ces grands nombres-là de FDLR? En plus de cela, même s'il faut parler des 358 éléments, est-ce qu'ils pouvaient faire face aussi à ces problèmes? Je crois qu'il y a aussi des questions plus qu'il faut se poser. Et pourquoi depuis attendre aussi que l'aide de l'air soit l'élément principal de tout ce qui se passe? Il faut aussi qu'en quelque sorte, la déclaration du Rwanda
d'avoir aussi retiré de la RDC un nombre de ces commandos. Et reste aussi une question à se poser, pourquoi le faire aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de montrer à la communauté internationale que ce n'est pas une façon aussi de cajoler ou bien d'embouter cette communauté internationale pour dire que le Rwanda a accepté de faire face ou bien d'accepter les différentes recommandations, surtout qu'il y a une pression contre lui. Et en plus de cela, la République démocratique du Congo, qui a un grand nombre d'agents de renseignement, pendant tout ce temps, parce qu'on parle qu'ils sont venus en février 2011. Aujourd'hui, nous sommes déjà en 2012, au 9e mois de l'année. Pendant tout ce temps, qu'est-ce que faisaient ces militaires, ces commandos rwandais ici? Et les déclarations que vient de faire Yann Sabala, telles qu'il avait dit la fois passée, je ne vais pas peut-être y revenir, parce que ce n'est pas l'élément essentiel, mais pour nous, c'est vrai de comprendre pourquoi la RDC se prononce aujourd'hui et pourquoi il le fait, c'est parce que peut-être les annonces étaient déjà visibles aussi au vu de tout le monde. Est-ce que c'est parce que les experts internationaux ont encore dit qu'ils vont peut-être le faire avant que le gouvernement ne fasse le fait aujourd'hui? Voilà les différentes questions que nous tous devons nous poser pour comprendre. Est-ce qu'il y a des accords secrets? Parce que le ministre Lambert Mende a refusé qu'il n'y ait jamais des accords secrets après le 31 juin 2009 lors des retraits des troupes rwandaises ici en RDC. Ils sont passés officiellement parce que nous étions ici. On a fait un défilé ici au niveau de l'ONC pour ceux qui ont un jour été à Goma. Ils sont passés jusqu'à la Grande Barrière. Nous les avons suivis même jusqu'au Rwanda. Et aujourd'hui, ils passent par Ouyon, ils passent par Kibumba. Quel est l'élément caché dans tout ça? Ce sont des questions que tout le monde peut se poser pour comprendre aussi la quintessence. Mais pour le peuple congolais, les grandes inquiétudes pour la population, surtout des Goma, c'est de savoir pourquoi ceci peut arriver aujourd'hui et pour quelle cause aussi.
Martin Mouy, autant de questions qui se posent au sujet du moment qu'a choisi le Rwanda pour faire cette annonce. Si réellement l'intention du gouvernement rwandais était celle de détourner la tension de l'opinion publique congolaise, est-ce qu'elle n'est pas parvenue à détourner cette attention? Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus du fiasco du Rwanda devant les comités de tension des Nations Unies, où on attendait des sanctions qui devaient être formulées contre le Rwanda. Aujourd'hui, la tension de l'opinion est maintenant focalisée sur le dirigeant congolais. Est-ce que le Rwanda n'est pas parvenu à détourner l'attention de l'opinion congolaise?
Comme toujours. Écoutez, lorsque vous avez un gouvernement qui subit, qui est toujours à la défensive, qui a pour politique de communication une politique à la défensive, lorsqu'il y a un problème qui se pose, on ne communique pas avant. On attend lorsqu'il y a des réactions pour réagir. Donc, on ne communique pas à coup. On navigue à vue. Et ça pose des problèmes. Aujourd'hui, regardez la randonnée diplomatique. Le ballet diplomatique qui se déroule sur la situation du Congo. J'ai parlé tout à l'heure de Didier Reynders. Il y a eu tout récemment le secrétaire d'État américain qui était ici. Il y a Hervé Latsouf, qui est le secrétaire général adjoint des Nations Unies, des opérations de maintien de la paix qui arrive, qui a annoncé. Il y a Kampala 1, Kampala 2, Dar es Salaam. Donc, vous avez l'accord qui a été signé officiellement entre le président Kabila et le président rwandais, Paul Kagame, à Addis. On n'en parle pas assez. On ne parle pas, on ne décortique pas le contenu de cet accord qui, du reste, a été rendu quand même public.
Voilà, au-delà donc de ces débats de communiqués, il y a cette problématique des accords qui ont été conclus entre la RDC.
Il y a eu un accord aussi qui a été signé officiellement à Addis Abeba tout récemment entre les deux présidents. Donc, autrement dit, au-delà des accords secrets, il y a des accords qui sont formels. Est-ce qu'on les respecte? Lorsqu'on conclut, on est aujourd'hui, on va discuter avec l'M23. Avec le CNDP à l'époque. Est-ce qu'on a mis en pratique, on a appliqué le terme de ces accords-là? Voilà le problème chez nous. Il y a un problème de manque de foi, de manque de volonté politique, de manque de volonté. C'est comme maintenant, la classe politique interne est allée exprimer son vœu devant l'informateur qui avait été utilisé autrefois pour dire qu'il faut un dialogue. On dit oui, le dialogue, il le faut dans l'état du Parlement. Mais tout le monde n'est pas au Parlement. Le dialogue politique peut s'établir entre les autorités et le reste étant d'autres acteurs politiques, pourquoi pas. Donc il ne faut pas attendre. Lorsque les gens n'ont pas trouvé des voies d'expression démocratique assez facile à être exploité sur place. Lorsque les gens recourent aux voies extrêmes, à ce moment-là, on communique. À ce moment-là, on agit par à coup et à la défensive.
Alors, en bas, on a évoqué la problématique des accords. Y aurait-il opacité voulue ou un déficit de communication de la part du gouvernement congolais?
Le deux à la fois est opacité et puis
déficit de
communication. Vous savez, dans ce genre de problème, vous voulez l'adhésion populaire, il faut informer. Et les Rwandais savent jouer ce jeu, ils savent quand ils trouvent une petite lacune dans les accords ou une petite défaillance, ils exploitent ça. Vous vous souviendrez qu'en 2005, pourquoi il y a eu des problèmes à Kanyabayonga? C'est parce qu'il y avait des troupes rwandaises à RDC jusqu'au niveau de Walikale. Et au point de presse, toujours de la MONUSCO, on a fait dire qu'on a trouvé à Walikale des jeunes gens avec une tenue militaire qui ne ressemble pas à la tenue des FRDC, ils ne comprennent pas le swahili, ni aucune langue nationale, ils n'utilisent pas la monnaie congolaise, ils ne savent même pas déchiffrer la monnaie congolaise. Curieusement, après cette annonce, deux jours après, il y a eu des individus qui se sont accaparés de Kanyabayonga. Où est-ce que vous avez trouvé la solution? Non. La solution était claire. On a expliqué à ce temps que si ces gens se sont mis à Kanyabayonga, la fête du CNDP, c'est pour permettre aux éléments de l'armée rwandaise qui était déjà au niveau de Walikale, de sortir par ce chemin via Kanyabayonga, ou même s'ils n'arrivent pas, ils trouvent le parc, ils vont par Vistungi, ils sortent. Sans même arriver même à Rutshuru, ils peuvent sortir par Yamilima et puis ils sortent par Bunagana. Donc la Bunagana, vous verrez, quand le CNDP est venu, c'est toujours, ils ont quitté Massis, c'est à Massis c'est où le CNDP a commencé, pour aller s'installer à Bunagana. Le deuxième tour, c'est la même chose. Donc c'est un centre où il y a beaucoup d'activités, des entrées du Rwanda qui ne sont pas contrôlées par le gouvernement congolais. Ça, c'est un CNDP. Alors, quand on arrive aujourd'hui à ce problème, est-ce que le gouvernement congolais a eu le soin de communiquer l'essentiel de ces accords? Quand il y a un accord, faites des émissions, discutez, et utilisez même vos amis de l'opposition, c'est le moment qu'il faut les utiliser. Bon, ils vont critiquer ces accords, et vous vous répondez, vous de la majorité, et l'opinion sait de quoi il s'agit. Quand il y a un problème après, on sait comment s'y prendre.
Oui, on peut citer quelques accords qui ont été rendus publics, après qui ont été signés officiellement. Il y a l'accord de cessez-le-feu de Lusaka le 10 juillet 1999, Lusaka en Zambie, entre le Rwanda et la RDC, c'était à l'époque des Mzee Laurent Désiré Kabila. Il y a l'accord de Pretoria le 30 juillet 2002, à Pretoria, donc en Afrique du Sud, où le président congolais Joseph Kabila et Rwandais, Paul Kagame, ont signé un accord d'été entre les deux pays. Il y a aussi l'accord de désarmement des rebelles Hutu en RDC, donc c'était le 12 novembre 2007, où les deux pays ont conclu un accord visant à désarmer pas la force les rebelles Hutu, mais l'on croit qu'il y en a d'autres qui auraient été conclus à l'insu même des institutions nationales. Comment vous expliquez ce fait?
Autant d'accords qui ne sont pas respectés.
Donc ils sont signés à l'insu des institutions.
Oui, parce que même si un accord, un chef de l'État qui représente une république, quand même, il peut signer des accords. Quand vous signez ces accords, il faut les mettre par exemple au niveau de l'analyse, au niveau du Parlement. Qu'on essaie d'informer l'opinion, il y a eu tel accord. Il ne faut pas garder trop de secrets. Quand on garde trop de secrets, ça devient un problème après.
On se rappelle même que Vital Samir a quitté le territoire pour avoir dénoncé l'approche qui avait été utilisée dans les accords entre le Rwanda et la RDC.
Oui, parce que vous allez voir même les histoires des officiers dont on parle aujourd'hui qui étaient au Rwanda. Vous trouverez qu'à Walikale, il y a une intense activité de l'air actuellement. Et toute l'attention est focalisée sur Rutshuru, alors qu'à Walikale, ça ne va pas. Et à Louké, il y a deux semaines, il y a eu des affrontements entre les FDLR, les Raï Amutomboki, le groupe FOKA, et ainsi de suite. Il y a eu beaucoup de morts, mais ça, on n'en parle même pas. Et comment les FDLR qui sont très actifs à Shabunda, on n'en parle même pas, on n'a pas envoyé des officiers de renseignement rwandais pour aller là-bas. C'est seulement Rutshuru. C'est ça la grande question qu'on se pose.
Alain Touma, entre-temps, vous êtes au Nord-Kivu. Entre-temps, la situation n'a pas changé, c'est le statu quo. Et l'opposition a même fait des propositions à l'endroit de la majorité pour la tenue d'un dialogue national. Une proposition qui a été jugée inopportune par la majorité. Comment vous analysez cette réaction de la majorité présidentielle face à la proposition faite par l'opposition?
Bon, je pense que le dialogue national entre la majorité et l'opposition, bon, ça peut être quelque temps bien, mais aussi qui l'ont porté à un certain moment. Le problème qui reste la RDC aujourd'hui, c'est un problème de son intégrité territoriale. Que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, tous doivent vivre aussi et émettre peut-être sur une même longueur d'onde. Mais aujourd'hui, quand la majorité juge un peu inopportune cette occasion pour le dialogue social, il faudrait mieux ensuite poser des questions sur ça. Est-ce que l'opposition a un agenda caché? Ou est-ce que l'opposition a une autre vérité par rapport à ce que la population connaît aujourd'hui pour faire face aussi à cette majorité dans le dialogue national? Mais nous avons toujours vécu des problèmes de dialogue national parce que ce n'est pas aujourd'hui la première fois qu'il y a des dialogues. On en a toujours eu, que ce soit en inter-congolais, que ce soit en dehors du Congo. Mais l'essentiel pour nous, c'est que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition, que ceux qui sont impliqués dans cette déstabilisation de la RDC soient conscients de ce qui se passe actuellement. Les dialogues peuvent être bien, on n'en discute même pas. Mais est-ce que les problèmes actuels se débutent selon les dialogues? Est-ce que le dialogue profitera aussi pour le peuple congolais? Voilà le genre de questions peut-être qu'on peut se poser. Mais il faut revenir sur cet élément de l'intégrité territoriale. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont cités dans la balkanisation, ceux qui sont cités dans ces problèmes des FUMP3, la plupart d'ailleurs sont ceux qui gèrent le pays, que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté de la majorité, tous sont placés impliqués dans un cadre ou dans un autre. Alors la majorité peut accepter à un certain moment d'être salée par cette opposition, et l'opposition aussi peut accepter d'être salée par cette majorité, des questions qui doivent peut-être trouver des solutions. Mais aujourd'hui, c'est la population qui est en train de souffrir par rapport à cette politique de couloir, comme on le dit. La population est en train de passer à Kiboum actuellement pour vivre ce qui se passe aujourd'hui. Les enfants sont en train de vivre dans des états aussi non humanitaires dans ces cas. Il y a des enfants qui meurent là-bas parce qu'ils ont manqué peut-être le médicament, l'ovalidite, chloraténicol, tellement pour ça qu'ils coûtent même pas plus de 5 enfants. Et ils en meurent pourquoi? Ils ont abandonné leur maison, ils ont abandonné leur domicile, ils ont abandonné peut-être leur camp et vivent dans des conditions non humanitaires ici. Et aujourd'hui, avec le dialogue social, ça fait d'une façon ou d'une autre être vrai, c'est d'être aussi mauvaise. Mais pourquoi mauvais plutôt? Pourquoi? Parce que l'essentiel pour le peuple congolais aujourd'hui, c'est de connaître ce qui est vrai, quelle est la vérité de cette agression, avec tout ce que nous avons comme diplomatie à échange. Et pour le peuple congolais, c'est tout ici à un moment où je vous dis, où je parle, et la province nord qui voit en général, les problèmes
actuellement,
c'est de trouver son discours une fois pour toutes.
Martin Mouy, la majorité présidentielle affirme que, en proposant ces dialogues nationaux, l'opposition cherche à casser la cohésion nationale. À votre avis, en quoi ces dialogues nationaux pourraient conditionner la cohésion nationale?
Non, le problème de la majorité, c'est un problème de la conservation du pouvoir. Mais ils ne comprennent pas, cette majorité, les acteurs de cette majorité ne comprennent pas que leur majorité et le pouvoir en question ne se stocke pas. Donc, nous sommes dans un pouvoir qui ne se stocke pas. Donc, c'est un pouvoir fragile. Lorsque vous avez des ponts entiers du territoire qui sont aujourd'hui entre les mains de d'autres de groupes armés, vous avez la turbulence de armes, aujourd'hui la destruction au centre avec John Kibangu, vous avez un pouvoir fragile. Et que la consolidation de ce pouvoir demande la mobilisation de toutes les énergies, y compris les énergies de ceux qui sont en face. Ceux qui sont en face de ce pouvoir pour que la démocratie existe, c'est l'opposition qui a aussi, qui doit être l'opposition républicaine, constructive. Donc, aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé ailleurs. Que ce soit quand il y a eu la guerre des Corées. La Corée du Nord et du Sud, cette Corée a eu à faire face à l'invasion japonaise. Les deux Corées se sont mis d'accord pour d'abord combattre l'ennemi commun qui est le Japon. C'est quand l'ennemi commun est parti que les rivalités internes ont repris. C'est comme quand vous trouvez aujourd'hui le cas de d'autres pays. Regardez, des exemples comme ça sont nombreux au monde. Donc, j'ai dit ceci. Les réflexes de conservation du pouvoir poussent cette majorité à refuser toute proposition, même quand il s'agit d'échanger sur le devenir de ce pays. Regardez à l'époque où Moussa est arrivé. On ne pouvait pas connaître cette situation, parce qu'à l'époque, lorsqu'il était arrivé, il a trouvé une démocratie qui était très avancée, il a suspendu les activités des partis politiques. On lui a dit, on ne peut pas suspendre la réflexion sur l'avenir du pays. Et les gens ne comprennent pas, ils veulent réfléchir seuls. Alors, la responsabilité, il faut l'assumer seul à ce moment-là.
Merci. Albert Omba, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour pacifier de façon durable l'Est du pays, hein? Il n'y a pas que le Nord Kivu, il y a aussi le Sud Kivu, il y a en province orientale, même au nord du Katanga, où les rébellions continuent à sévir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pacifier
de façon durable cette partie du pays.
Je crois que le problème est simple. C'est question de prendre au sérieux la donne de l'Est. Prendre au sérieux, c'est-à-dire quoi? Nous avons dit à l'époque, on a formé des régimentations ici, il faut surveiller le point chaud. Il faut développer les services de renseignement. Pas pour traquer les gens parce que tel a injurié tel individu, non. Avoir tous les renseignements nécessaires sur la situation de l'Est, c'est-à-dire entre nous et le Rwanda. Prendre le Rwanda comme la situation qui existe entre les Juifs et les Palestiniens. Donc, le quotidien des Juifs, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'autre côté, c'est les Palestiniens. La même chose, c'est les Palestiniens, qu'est-ce qui se passe, c'est les Juifs. Donc, quand vous perdez le temps avec beaucoup de considérations à gauche et à droite, le problème vous échappe. Ça, c'est la première chose.
Mais là, la Palestine et l'État hébreu, c'est un problème lié au peuple, à la population, tandis qu'entre le Rwanda et la RDC, c'est un problème lié au régime, pas à la population.
Pas à la population, vous venez de le dire. Et quand le problème est lié au niveau du régime, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des services qui savent gérer les régimes, surveiller les régimes. Il y a un mécanisme pour ça. Donc, on doit, en dehors, il ne faut pas être naïf, en dehors des accords qui sont conclus avec les Rwandais, il faut développer tous les mécanismes de renseignement nécessaires pour qu'on sache qu'est-ce que le Rwanda fait exactement.
Nous passons à notre dernier thème de ce soir. La rentrée scolaire est intervenue lundi 3 septembre dernier en République démocratique du Congo. Le premier ministre Matata Fono a procédé à la cérémonie officielle. C'était au complexe scolaire Nwanza du quartier Mikondo à Kingasani, dans la commune de Kimbanseke, ville de Kinshasa, en présence du ministre Matière Mwangu du renseignement primaire, secondaire et professionnel. À cette occasion, 1406 scolaires ont été remis à cette école de la congrégation des frères Josephites de Kingambi. Cependant, les syndicats des enseignants du Congo appellent tous ses membres à venir au travail jusqu'à l'expiration le 20 septembre prochain de l'ultimatum adressé au gouvernement pour l'exécution de leur cahier des charges. D'après le secrétaire général du CIECO, le gouvernement a certes promis d'améliorer les conditions salariales des enseignants dans le budget 2012, mais certains problèmes demeurent. Jean-Pierre Kinguya est joint par Richard Junior Kamunga.
Il y a des choses qui ont été faites, mais par rapport aux ensembles des enseignants, la question primordiale, c'est la question salariale. Et c'est la question des enseignants au milieu et sur les signes de paye. Mais pour l'instant, il y a aussi la question en rapport avec la bancarisation des salaires des enseignants. Donc, il y a des problèmes à ce niveau-là. Mais les enseignants en province, notamment la province orientale, la province d'Équateur, la province du Bandundu, avec une des assemblées, et nous avons relayé ces assemblées, ils avaient demandé de pouvoir reprendre les trois, tout en maintenant une pression sur le gouvernement en vue de pouvoir convoquer les négociations pour qu'on puisse vider les questions en rapport avec le cahier des charges des enseignants. Et un ultimatum avait été lancé en direction du gouvernement jusqu'au 20 septembre afin que le gouvernement puisse vraiment parler au plus pressé pour répondre aux attentes des enseignants.
Alain Chouma, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la radio Kivu 1, qui est née depuis la ville de Goma au Nord Kivu. Les enfants ont repris le chemin de l'école depuis lundi 3 septembre dernier. Quelle est votre analyse? Allô, Alain Chouma, apparemment nous l'avons perdu. Martin Moïse, je rappelle que vous êtes éditeur du quotidien La Prospérité, un journal qui paraît ici à Kinshasa. Comment vous analysez la rentrée scolaire qui a eu lieu lundi 3 septembre dernier?
Bon, d'une manière générale, j'estime que le gouvernement tente de s'efforcer. C'est quand même une première qu'on ait bancarisé la paye et qu'il y ait régularité de cette paye. Lors de la dernière réunion de la Troïka ici c'est une réunion du secteur socio-économique, beaucoup plus économico-financier du gouvernement, il a été décidé que la prochaine fois que le gouvernement paye les salaires du mois de septembre, ici le 17. Le 17 septembre, les enseignants sont payés. Donc à ce niveau-là, il y a un effort qui est en train d'être observé. Mais tout ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est de réajuster. Les enseignants sont payés, mais ils sont payés. C'est combien la paye? Est-ce que ce qu'on paye à l'enseignant aujourd'hui permet à l'enseignant de mener une vie décente, de scolariser ses propres enfants, de contribuer à l'éclosion, à l'amélioration de ses conditions de vie et de contribuer même à l'avancée du pays? Parce que lorsqu'on est bien, plus ou moins bien payé, ça permet quand même d'assurer une certaine indépendance de l'enseignant vis-à-vis des parents, vis-à-vis des élèves.
et ça lui permet de travailler, de donner le meilleur de lui-même pour que la qualité de l'enseignement soit relevée. Donc le problème c'est ça, le contenu de cette qualité combien. Ce qui est aussi à souligner que lors de la première série de payes, le gouvernement a eu à engranger ce qu'on appelait le reliquat. On a eu 1,3 milliard de restes lors de la paye des enseignants. Donc, quelque part, cette question qui est en train d'être fournie, nous disons qu'il faut arriver à améliorer. Alors, dans les revendications des enseignants, si j'ai bien compris, il y a encore des revendications qui restent. Donc, le gouvernement doit s'employer. Un gouvernement, j'ai toujours dit, on ne prend pas le pouvoir pour se mettre à pleurnicher. On cherche les moyens pour pouvoir faire face à toutes les situations, y compris les situations de guerre, y compris comme aujourd'hui la francophonie, la rentrée scolaire. Il faut payer, mais payer combien? Le budget 2012, faut-il le rappeler, c'est un budget qui a été voté pratiquement à la moitié, depuis au mois de juin, hein, 2012. Un budget 2012 voté au mois de juin 2012, promulgué en juillet. Vous voyez ce que ça fait? Donc c'est un budget qui a aujourd'hui, dont le statut représente des chiffres, mais des chiffres qu'on a peut-être déjà consommés avant, parce qu'on a pu travailler le pays avec des crédits provisoires. Donc nous avons là un problème, on n'est pas dans un budget tout à fait normal qui a été voté à temps et tout. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui appliquer ne plus que ces budgets-là, ce qui était prévu, pour que les enseignants retrouvent autant que les fonctionnaires, autant que d'autres catégories socio-professionnelles, retrouvent leur équilibre et qu'ils refassent confiance au pouvoir en place. Parce que si on continue à tâtonner, à donner le peu qu'on donne et à s'en féliciter, on ne prendra plus assez de quoi. Il faudra que Matas, dans sa politique, et avec les reliquats dégagés ça et là, qu'il puisse voir dans quelle mesure appliquer plus que ce qui a été prévu au milieu de nous en question.
Alors, Thomas, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio Toscanaïtienne, qui est né depuis la ville de Kinshasa. La rentrée scolaire, un casse-tête pour les parents, et les écoles qui exigent des acomptes allant des 50 à 150, voire même $300 dans les écoles publiques. Quand on se rappelle les salaires modiques que quittent les fonctionnaires de la CPI, et là où le bas blesse, c'est que le gouvernement ne réagit pas.
Oui. Comme vous l'avez dit, le gouvernement ne réagit pas parce qu'il y a un problème. Il y a une bombe à retardement. On a dit le 20. Est-ce que le gouvernement a pris des précautions pour désamorcer cette bombe? Parce qu'après, il faut dire, il y a la guerre, il y a des ennemis, des opposés qui sont à la fois
par rapport aux enseignants et par rapport aux parents.
Par rapport aux parents,
qui sont obligés de débourser beaucoup d'argent.
Oui, mais la plupart des parents sont des fonctionnaires. La plupart, ils ne sont pas payés. On s'est apprécié de payer les enseignants. Et les autres, on le paye à compte-gouttes. Il y a d'autres qui n'ont pas encore leur salaire du mois d'août. Comment ils vont faire face à la rentrée des classes? Or, pour que les autres puissent travailler par aide de l'argent, il faut que ceux qui travaillent, qui ont un petit salaire, puissent être payés pour aller acheter de quoi ils en ont besoin pour que ceux-là aussi envoient leurs enfants à l'école. Vous voyez que le cercle est vicié. Ce qu'on a demandé au gouvernement, comme je viens de dire Marcel tout à l'heure, pourquoi attendre? Le gouvernement a le moyen. On a fait une discrimination entre les enseignants. Je prends les enseignants le plus qualifié, qu'on appelle, entre guillemets, professeur. Un professeur, c'est un grade. C'est l'enseignant du supérieur, c'est-à-dire l'enseignant qui a le plus grand diplôme, le diplôme le plus élevé de doctorat. C'est cet enseignant-là qu'on appelle, quand il travaille, il donne cours, on lui donne le grade de professeur. Le professeur, c'est un grade, comme colonel, comme directeur, c'est quelque chose à mettre. C'est l'enseignant le plus gradé. Et à dehors de l'enseignement du supérieur de l'université, il y a l'enseignant du secondaire, il y a l'enseignant du primaire. Quand vous payez l'enseignant de l'université ou du supérieur, comment ne pas payer l'enseignant du secondaire et du primaire? Mettez la proportion, vous payez un montage, vous payez 10 fois, 20 fois l'enseignant du supérieur et celui du secondaire à la 1/20 de son collègue. Est-ce qu'il fait bien travailler? Qu'est-ce qu'on demande au gouvernement? De ne pas faire des miracles, d'avoir seulement une gentillesse, de commencer chaque jour. On a vu les médecins, on les a séparés avec les infirmiers. Un hôpital ne peut pas marcher sans infirmiers, mais on paye, on donne quelque chose aux médecins parce qu'ils peuvent faire pression. On donne quelque chose aux professeurs parce qu'ils peuvent faire pression. Ils peuvent aller, ils sont partout dans les cabinets, tout ça. Et les autres?
pour qu'une université marche. Vous savez, est-ce que c'est le professeur qui doit faire marcher une université? Non. Il y a autant de catégories. Il y a des scientifiques qui travaillent jour et nuit. Le professeur, il fait des tours entre les universités, tout papa parle. Il revient là-bas. Mais celui qui fait le travail, qui connaît le TP, c'est l'assistant ou le centre de travaux. Alors, qu'est-ce qu'on demande au gouvernement? Ce centre, une petite volonté. La rentrée ici, le gouvernement pouvait donner 20 000 à chacun pour vous permettre d'acheter un cahier. Le mois prochain, 15 000. À la fin de deux ans, 15 000, 20 000, ils constateront qu'on aura avancé. Il ne faut pas venir avec de la littérature, dire aux gens, des expériences, il y a un autre qui était l'ancien gouvernement, pour payer les fonctionnaires, il faut 20 ans. Vous êtes un inspecteur des finances. Premier ministre, c'est sur quoi? Vous ne maîtrisez même pas les effectifs. Pourquoi être premier ministre quand vous ne maîtrisez pas les effectifs? Donc, c'est question d'avoir une volonté, commencer par un petit, comme ils attendent les 20. C'est un signal, les 17 qui vous les payez, vous donnez à chacun, vous dites non, mes amis, attendez les budgets de dignité, on vous donne 30 000 chacun pour que vous achetez des cahiers.
Marcel Moïse, les moyens sont là, mais c'est la volonté qui manque. Depuis toujours que les enseignants ont formulé ces revendications, mais bon, il n'y a pas de changement. Vous attribuez cette passivité du gouvernement à quoi? Pourquoi le gouvernement reste passif vis-à-vis de toutes ces revendications formulées par les enseignants depuis plusieurs années?
Bon, non, le gouvernement n'est pas passif. Le gouvernement a toujours engagé un dialogue social avec les enseignants. Pour désamorcer toutes ces grèves, le gouvernement a toujours eu une politique. C'est d'approcher les principaux tenants des syndicats, de les convaincre pour désamorcer la grève. Donc le gouvernement est attentif, mais c'est un gouvernement qui est aujourd'hui tenaillé par des problèmes dans tous les sens. Vous devez le savoir. Que
le problème ne date pas d'aujourd'hui.
Oui, j'ai dit tout simplement que ce gouvernement n'est pas, simplement vous n'allez pas dire qu'il est passif. C'est un gouvernement qui voit, qui comprend, qui écoute, mais dont le fait d'avoir de multiples dépenses qui se font dans un ordre dispersé. Et aujourd'hui, le fait de faire face à des situations comme la guerre, tout ça qui n'était pas prévu dans ce budget 2012, le fait aujourd'hui de focaliser toute son attention, c'est un gouvernement qui agit par à coup. Regarde, lorsqu'il y a des élections, il faut sortir de l'argent. Et donc, on bouge ailleurs. Quand il y a maintenant francophonie, on bouge toutes les autres sorties, c'est la francophonie.
Peut-on dire que le budget 2013 pourra apporter quelques solutions?
C'est difficile, c'est un problème. C'est pourquoi j'ai dit pour aller au budget 2013, évaluons le budget 2012, les anciens budgets. Souvenez-vous de tout ce qu'on a promis comme cagnotte à la presse congolaise. La cagnotte qui a été promise par le gouvernement précédent aux artistes. Ça n'a jamais été débloqué. C'est un gouvernement qui ne se soucie pas assez de ce qu'il faut faire. C'est ça le problème. Le manque de discipline, d'orthodoxie. Ce qu'on appelle la gabégie, c'est ça. Mais s'il y a des efforts qui peuvent commencer quelque part, comme on le constate, on bancarise, on systématise la paye, on réajuste la hausse, ça peut faire renaître l'espoir. Et là, il faut travailler. Travailler pour que on ait effectivement des moyens. J'ai toujours suspicion sur l'attitude des fonctionnaires, de certains fonctionnaires. Ils ne vont pas au travail, ils se pointent à 11 heures, ils signent sur une liste, ils réclament de l'argent pour le travail qu'ils n'ont pas fait. Le problème, c'est que le jour qu'on prend conscience de façon collective, d'une part, le gouvernement prend conscience de ses responsabilités, et de l'autre, les enseignants, les fonctionnaires prennent conscience de leurs responsabilités, que nous devons nous tous nous mettre ensemble pour travailler, ce jour-là, ce pays marchera.
Albert Rombas, la bancarisation des salaires est effective aujourd'hui, peut-on espérer?
Et il y a de l'espoir, c'était une bonne méthode que le gouvernement utilisait pour essayer de réaliser certaines recettes et de voir un peu clair là la situation de ce type. Mais je ne suis pas d'accord avec Marcel quand il dit que les fonctionnaires viennent à 11 heures. Si Marcel pouvait se souvenir que ce que gagne un fonctionnaire, quel que soit son grade, un directeur par exemple, qui devait venir à son service, à quelle heure, et quel est ce salaire? Il faut un peu d'analyse, voir les barèmes de son fonctionnaire.
Vous pouvez aussi enseignant.
Bon. Et alors, vous verrez que c'est par miracle que les gens viennent au travail. C'est par miracle.
Merci, c'est la fin de cette émission. Jean-Noël Mukondo était à la technique et Alain Hirong à la réalisation sous la supervision des téléquipes de la Mondo. Devant ce micro, Guy Maté, merci et bonne suite des programmes sur Radio Capi.
Thank you.